Chapitre 34. Marlowe allongea ses jambes et se leva vivement, en chancelant un peu, comme s'il eût touché terre après un bond à travers l'espace. Il s'adossa à la balustrade, en regardant le désordre des chaises longues de canne. Les corps prostrés parurent gênés dans leur torpeur par ce mouvement, et un ou deux des auditeurs se redressèrent d'un air inquiet. Le feu d'un cigare brillait encore çà et là. Marlowe regarda autour de lui avec les yeux d'un homme sorti des lointaines profondeurs d'un rêve. On entendit un raclement de gorge et une voix calme lança d'un ton négligent cet encouragement. Et après ? Rien, fit Marlowe avec un léger tressaillement. Il lui avait raconté son histoire, voilà tout. Et elle ne le croyait pas, rien de plus. Pour moi, je ne sais s'il était juste ou même admissible de me réjouir ou de déplorer la chose. En ce qui me concerne, je ne puis dire que ce que je croyais. Je ne le sais pas encore aujourd'hui à la vérité, et ne le saurai probablement jamais. Mais que croyait-il lui-même, le pauvre diable? La vérité finit toujours par triompher, n'est-ce pas? Magna est veritas et... Oui, si on lui laisse le temps. Il y a une loi, sans doute, mais c'est aussi une loi qui régit la chance des joueurs de dés. Ce n'est pas la justice, servante des hommes, mais l'accident, le hasard, la fortune, alliés du temps patient, qui maintient un juste et scrupuleux équilibre. Tous deux nous avions dit la même chose. Disions-nous la vérité tous deux? Un seul ou aucun de nous ne la disait-il? Marlowe s'interrompit, croisa les bras sur sa poitrine, puis d'un ton changé, « Elle prétendait que nous mentions, pauvre petite. Eh bien, remettons-nous-en à la chance, dont l'allié est le temps, que rien ne précipite, et l'ennemi, la mort, qui ne veut pas attendre. » Je battais en retraite, un peu découragé, je l'avoue, après avoir tendu un piège à la terreur latente et m'être fait démasquer, naturellement. Je n'avais réussi qu'à ajouter à l'angoisse de la jeune femme le soupçon de quelque entente secrète, d'une incompréhensible et inexplicable conspiration pour la tenir toujours dans la nuit. Et la chose s'était accomplie facilement, naturellement, inéluctablement, de son fait à lui et de son fait à elle. On eût dit que l'on me montrait le mécanisme de l'implacable destinée dont nous sommes les victimes et les instruments. Il était affreux de penser à l'enfant que je venais de laisser là, immobile. Les pas de Jim résonnaient de façon fatidique lorsqu'il s'approcha sans me voir avec ses lourds souliers lacés. « Comment ? Pas de lumière ? » fit-il à voix haute, avec un accent de surprise. « Qu'est-ce que vous faites donc dans l'obscurité, tous les deux ?» Ses yeux durent tomber aussitôt sur la jeune femme. « Eh bien, ma fille, fit-il gaiement. « Eh bien, mon gars, répondit-elle du tac au tac, avec un sang-froid stupéfiant. C'était leur bonjour habituel, et l'accent de crânerie qui passait dans la voix un peu haute, mais douce, avait quelque chose de très drôle, de charmant et d'enfantin qui ravissait Jim. C'est la dernière fois que je les entendis échanger ce salut familier. Et il me glaça le cœur. Je distinguais bien encore la voix claire et tendre, le joli effort, la petite crânerie, mais tout cela paraissait prématurément brisé, et l'appel enjoué sonnait comme un gémissement. C'était affreusement douloureux. « Qu'as-tu donc fait de Marlowe ? » demanda Jim. Puis il ajouta, « Il est sorti. Ah, vraiment. Curieux que je ne l'ai pas rencontré. Vous êtes là, Marlowe ? » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas rentrer. Pas encore, au moins. Non, je ne pouvais pas. Pendant qu'il m'appelait, je m'esquivais par une petite porte ouverte sur un lopin de terre récemment défriché. Non, je ne voulais pas me trouver en face d'eux pour l'instant. La tête basse, je marchais à grands pas sur un sentier frayé. Le sol s'élevait en pente douce. Les rares grands arbres avaient été abattus, le taillis coupé et l'herbe brûlée. Jim voulait essayer là une plantation de café. La montagne, qui détachait en noir d'encre ses sommets jumeaux sur la lueur jaune de la lune surgissante, commençait à faire peser son ombre sur le terrain préparé pour cette expérience. Il voulait en faire tant d'expériences. J'avais admiré son énergie, son esprit d'entreprise, son habileté aussi. Et maintenant, rien au monde ne me paraissait moins réel que ses plans, son énergie et son enthousiasme. En levant les yeux, je vis un morceau de la lune briller au fond de la faille à travers les fourrés. On eût pu croire un instant que le disque plat était tombé du ciel pour rouler dans le précipice, et qu'un rebond paresseux le soulevait et le dégageait du lacis des rameaux. Le tronc tordu d'un arbre, poussé sur la pente, faisait au milieu de sa face une fente noire. Il lançait au ras du sol des rayons qui semblaient sortir d'une caverne, et dans la morne lumière, terne comme celle d'une éclipse, les souches des troncs abattus mettaient des taches très sombres. Les ombres lourdes, tombées de tous côtés à mes pieds, se confondaient avec ma propre ombre mouvante, et en travers de mon chemin se dressait l'ombre de la tombe solitaire, éternellement fleurie de guirlandes. Dans l'obscure clarté, les fleurs tressées prenaient des formes méconnaissables et d'indéfinissables couleurs, comme si c'eussent été des fleurs spéciales que nulle main n'eût cueillies, qui n'eussent pas poussé dans ce monde et qui fussent réservées au seul usage des morts. Leur parfum puissant, qui flottait dans l'air chaud, le rendait lourd et épais, comme une fumée d'encens. Autour du tertre d'ombre, les motifs de corail blanc luisaient comme un chapelet de crânes blanchis, et tout était si paisible alentour que lorsque je m'arrêtais, tous les mouvements et les bruits du monde parurent avoir cessé à jamais. C'était une grande paix, comme si la terre entière n'eût été qu'une tombe, et je restais là quelque temps, la pensée arrêtée sur les vivants, qui, perdus dans les lieux écartés et inconnus des hommes, restent pourtant condamnés à partager leur misère tragique ou grotesque. Leur plus noble combat aussi, peut-être, qui sait. Le cœur humain est assez vaste pour contenir le monde entier. Il est assez vaillant pour en supporter le poids, mais où est le courage qui le rejetterait? Je devais m'être abandonné à une humeur sentimentale. Je sais seulement que je restais assez longtemps près de cette tombe pour me laisser envahir par une telle impression de solitude que tout ce que je venais de voir et d'entendre, que la parole humaine même semblait n'avoir plus d'existence et n'éveillait qu'un dernier écho dans ma mémoire comme si j'eusse été le dernier des humains. Étrange et mélancolique illusion, à demi consciente, comme toutes nos illusions, que je soupçonne de n'être que des visions de vérités lointaines et inabordables, confusément pressenties. C'était bien là, certainement, un des coins perdus, oubliés, inconnus de la terre. J'avais regardé sous sa surface obscure, et je sentais que le lendemain, lorsque je l'aurais quitté pour toujours, il cesserait d'avoir une existence réelle, et ne vivrait plus que dans ma mémoire, jusqu'au jour où je sombrerais moi-même dans l'oubli. Cette impression me poursuit maintenant encore. Peut-être est-ce elle qui m'a incité à vous conter cette histoire, à tenter de vous repasser, pour ainsi dire, son existence et sa réalité, sa vérité révélée dans un moment d'illusion. Cornelius chassa cette illusion. Il émergea comme une vermine de l'herbe haute qui poussait dans une dépression du sol. Je crois que sa maison pourrissait quelque part par là, mais je ne l'ai jamais vue, n'ayant pas poussé assez loin dans cette direction. Il accourait vers moi sur le sentier. Ses pieds, chaussés de souliers blancs sales, luisaient sur le sol sombre. Il s'arrêta et se mit à pleurnicher avec force courbette. Il portait un grand tuyau de poêle, et sa pauvre carcasse, desséchée et noyée, perdue dans un complet de drap noir. C'était son costume de fête et de cérémonie, et je me souvins, en le voyant, que ce jour-là était le quatrième dimanche de mon séjour à Patouzan. J'avais toujours eu l'impression vague que le Portugais était prêt à s'épancher en confidence, s'il pouvait jamais m'avoir tout à lui. Il rôdait autour de moi, en laissant paraître sur sa petite figure de vinaigre une mine d'ardente convoitise, mais sa timidité le retenait autant que ma répugnance à me commettre avec un aussi triste personnage. Il fut parvenu pourtant à satisfaire son désir sans son extraordinaire propension à s'éclipser dès qu'on le regardait. Il s'esquivait devant les yeux sévères de Jim, devant les miens que je m'efforçais de rendre indifférents, même devant le regard revêche et méprisant de Tam Tam. Il s'esquivait éternellement. Dès qu'on l'apercevait, on le voyait filer obliquement, le visage par-dessus l'épaule avec un rictus de méfiance ou une mine désolée, piteuse, muette. Mais nulle expression de commande ne pouvait masquer l'abjection innée et irrémédiable de sa nature. Pas plus qu'un vêtement ne saurait sceller une difformité monstrueuse du corps. Je ne sais si c'était découragement de ma totale défaite, moins d'une heure auparavant, dans ma rencontre avec un fantôme de terreur, mais je me laissais accaparer sans même un semblant de résistance. J'étais voué, faut-il croire, aux confidences et aux questions sans réponse possible. C'était affligeant, mais le mépris instinctif que provoquait l'aspect de cet homme rendait l'épreuve plus facile à supporter. Il ne pouvait être d'aucune conséquence. Rien n'avait plus d'importance, puisque j'étais certain, dorénavant, que Jim, dont je me souciais seul, avait fini enfin par subjuguer sa destinée. Il m'avait dit être satisfait, ou presque. C'est s'avancer plus que n'oserait le faire la plupart d'entre nous. Moi qui ai le droit de me croire assez digne, je n'ose pas. Pas plus qu'aucun de vous ici, je suppose. Marlowe se tut comme s'il eût attendu une réponse, mais personne ne souffla mot. Très bien, fit-il. Nul n'en saura rien, puisqu'il faut, pour nous arracher le secret de la vérité, une petite catastrophe affreuse, cruelle. Mais Jim est l'un de nous, et il pouvait se dire satisfait, ou presque. Imaginez un peu cela, presque satisfait. Pour un peu, on lui envierait sa catastrophe. Presque satisfait. Après une telle affirmation, rien ne pouvait plus avoir d'importance. Peu importait qu'on le soupçonnât ou que l'on eût confiance en lui, qu'on l'aimât ou qu'on le trahît, surtout quand c'était un Cornelius qui lui haïssait. Et pourtant, c'était encore, somme toute, une espèce d'hommage. On juge un homme sur ses ennemis aussi bien que sur ses amis, et cet ennemi de Jim était de ceux qu'aucun honnête homme ne rougirait d'avouer, sans pourtant en faire trop le cas. Tel était le point de vue de Jim et le mien aussi, mais Jim le méprisait encore au nom de principes généraux. « Mon cher Marlowe, me disait-il, je sais que, tant que je marcherai droit, rien ne peut m'atteindre. C'est vrai. Vous qui avez passé assez de temps ici maintenant pour voir bien clair autour de vous, franchement, ne me croyez-vous pas en sécurité? Tout dépend de moi, et par Jupiter, j'ai une bonne dose de confiance en moi-même. Le pire que puisse faire un Cornelius, ce serait de me tuer, je suppose, mais je ne crois pas un instant qu'il le fasse. Il n'oserait pas, vous savez, quand bien même je lui tendrais un fusil tout chargé pour me tirer dessus, en lui tournant ensuite le dos. Il est ainsi fait. Et supposez qu'il arrive à oser, eh bien qu'importe. Ce n'est pas pour sauver ma vie que je suis venu ici, n'est-ce pas? C'était pour m'appuyer le dos au mur, et maintenant que j'y suis, je prétends y rester. Jusqu'à ce que vous soyez tout à fait content, insinuai-je. C'est sous la tente disposée à l'arrière de son bateau que nous causions ainsi. 20 rames étincelaient à la fois, 10 de chaque côté, et frappaient l'eau d'un seul coup, tandis que derrière notre dos, Tamitam barrait placidement et regardait droit devant lui, attentif à maintenir la longue embarcation dans le plus rapide courant. Jim baissa la tête, et notre dernière conversation parut s'éteindre pour de bon. Il me reconduisait à l'embouchure du fleuve. La goélette, partie la veille, cherchait péniblement sa route en se laissant emporter par le jusant, mais j'avais prolongé d'une nuit mon séjour, et maintenant il m'emmenait. Jim avait été un peu irrité de m'entendre parler de Cornelius. À la vérité, je n'en avais pas dit grand-chose. L'individu était trop insignifiant pour être dangereux, bien qu'il fût bourré de haine à éclater. Il m'avait donné, tous les 10 mots, de l'honorable monsieur. Il n'avait pas cessé de pleurnicher à mon côté depuis la tombe de feu sa femme jusqu'à la porte du domaine de Jim. Il se proclamait le plus infortuné des hommes, triste victime écrasée comme un ver, et me suppliait de le regarder. Je ne voulais pas tourner la tête, mais du coin de l'œil, je voyais son ombre obséquieuse glisser derrière la mienne, tandis qu'à notre droite, la lune semblait contempler la scène avec sérénité. Comme je vous l'ai dit, il essayait de m'expliquer son rôle dans la nuit mémorable. C'était simple affaire d'à propos. Comment savoir qui allait sortir vainqueur de la lutte? « Je l'aurais sauvé, honorable monsieur, je l'aurais sauvé pour 80 $, protestait-il d'un ton doucereux, en marchant à grands pas derrière moi. « Il s'est sauvé lui-même, répondis-je, et il vous a pardonné. » J'entendis une sorte de ricanement et me tournai vers lui. Il parut aussitôt prêt à prendre les jambes à son cou. « Qu'est-ce qui vous fait rire ? » demandai-je en m'arrêtant court. « Ne vous y trompez pas, honorable monsieur, cria-t-il, en perdant évidemment tout contrôle sur ses sentiments. Lui se sauver? Mais il ne sait rien, honorable monsieur, rien du tout. Qu'est-il? Que veut-il ici, le brigand? Que veut-il ici? Il jette de la poudre dans tous les yeux, il en jette au vôtre, honorable monsieur, mais au mien il ne peut pas en jeter. C'est un grand niais, honorable monsieur. Je me mis à rire avec mépris et pivotai sur les talons pour reprendre mon chemin. Cornelius trottait près de moi, en chuchotant avec volubilité. Ce n'est qu'un petit enfant, ici, un petit enfant, rien qu'un petit enfant. Bien entendu, je ne faisais nulle attention à ses paroles, et voyant que le temps pressait, car nous approchions de la clairière, et la clôture de bambou luisait au-dessus du sol noirci, il en vint au point. Il commença par se montrer abjectement pleurard. Ses grands malheurs avaient affecté sa tête. Il comptait sur ma bonté pour excuser ce que ses misères lui faisaient seul dire. Il ne voulait pas de mal. Seulement l'honorable monsieur ne savait pas ce que c'est que d'être ruiné, brisé, foulé aux pieds. Après cette entrée en matière, il aborda le sujet qui lui tenait au cœur, mais de façon si tortueuse, si décousue, si couarde, que je ne pus de longtemps discerner où il voulait en venir. Il me priait d'intercéder en sa faveur auprès de Jim. Il y avait là aussi une affaire d'argent quelconque. J'entendais de temps en temps des paroles sans suite, une somme modeste, une dotation appropriée. Il semblait évaluer une réparation, et s'avança jusqu'à dire avec quelque chaleur que la vie ne valait pas la peine d'être vécue pour un homme dépouillé de tout. Je ne soufflais pas mot, bien entendu, mais je ne me bouchais pas non plus les oreilles. Le fin mot de l'affaire, qui m'apparaissait peu à peu, c'est qu'il se croyait droit à une certaine somme en échange de la jeune fille. Il l'avait élevée, l'enfant d'un autre, beaucoup de peine et de tracas, un vieillard maintenant, une compensation convenable. Je restais immobile pour le regarder, et craignant sans doute de m'entendre taxer ses exigences d'excessives, il se hâta de faire une concession. Moyennant une dotation convenable, donnée dès maintenant, il se déclarait prêt à subvenir à l'entretien de la jeune femme, sans rien exiger de plus, quand sonnerait l'heure pour le gentleman du retour au pays. Sa petite figure jaune, toute chiffonnée, comme un citron pressé, exprimait l'avarice la plus passionnée, la plus inquiète. Sa voix plaintive avait des accents de cajolerie. Plus d'ennui, le tuteur naturel, une somme d'argent. J'en restais ahuri. Cette sorte d'entreprise était évidemment une vocation chez cet homme. Je découvris tout à coup dans son attitude rampante une manière d'assurance, comme s'il eût toute sa vie connu la certitude. Il devait croire que je pesais froidement sa proposition, car il se fit doux comme miel. Tous les messieurs laissaient une dotation quand venait l'heure de retourner chez eux. Je fermai violemment la porte. Dans le cas présent, monsieur Cornelius, affirmai-je, l'heure ne viendra jamais. Il lui fallut quelques secondes pour saisir le sens de mes paroles. Puis, avec un véritable cri, « Comment » lança-t-il. « Comment ? » répondis-je de l'autre côté de la porte. « Ne le lui avez-vous jamais entendu dire à lui-même ? » ?»« Il ne retournera jamais au pays. »« Oh, c'est trop fort » cria-t-il. Il n'était plus question d'honorable monsieur maintenant. Il resta un instant muet. Puis, à voix basse, sans trace d'humilité, « Ne jamais repartir. »« Ah ! Lui qui vient, le diable sait d'où, qui vient ici, le diable sait pourquoi, et m'écrase sous ses pieds, m'écrase à mort. » Il frappa doucement le sol de ses deux pieds. « Comme ceci, personne ne sait pourquoi, à mort. » Sa voix s'éteignait, il était secoué par une petite toux. Il vint tout près de la balustrade pour me dire sur un ton pitoyable et confidentiel qu'il n'entendait pas se laisser écraser. « Patience, patience » grommela-t-il en se frappant la poitrine. Je ne riais plus, mais c'est lui qui me fit soudain tressaillir par un éclat de rire dément. « Ha, ha, ha ! Nous verrons !» Comment ? Il m'aurait volé, tout, tout !» Sa tête se penchait de côté et ses mains nouées pendaient devant lui. On eût dit qu'il portait à la jeune fille une excessive tendresse, que son âme avait été broyée et son cœur brisé par la plus cruelle des spoliations. Tout à coup, il leva la tête pour lancer un mot infâme. « Comme sa mère ! Elle ressemble à sa menteuse de mère, absolument. De traits aussi, le démon !» Il appuya son front à la balustrade, et dans cette posture, vomit en portugais des blasphèmes et d'horribles menaces. Il poussait des exclamations sourdes, entrecoupées de plaintes et de gémissements pitoyables, avec des spasmes des épaules, comme s'il eût été en proie à une crise mortelle. C'était un spectacle inexprimablement vil et grotesque, et je m'éloignais vivement. Il essaya de crier quelque chose derrière mon dos, des paroles insultantes sur le compte de Jim, me semble-t-il. Mais il ne les lançait pas trop haut, car nous étions tout près de la maison. Tout ce que j'entendis distinctement, ce fut « Ce n'est qu'un petit enfant, un petit enfant !» Chapitre 35. Mais le lendemain matin, lorsque le premier coude de la rivière eut caché derrière moi les maisons de Patouzan, toute la réalité de ces faits, avec leurs couleurs, leurs dessins et leurs significations, me sortit des yeux comme en sort un tableau que l'imagination jeta sur une toile et auquel on tourne une dernière fois le dos après une longue contemplation. Il resta imprimé dans la mémoire avec toute sa fraîcheur, avec sa vie figée sous une lumière immuable. Ce petit coin de terre nourrissait des ambitions, des terreurs, de la haine, des espoirs, et le souvenir de tout cela demeure intact dans mon esprit avec une égale intensité, avec une sorte d'expression fixée pour toujours. J'avais tourné le dos au tableau pour retourner vers le monde, où les choses se meuvent, où les hommes changent, où la lumière palpite, où le flot clair de la vie coule indifféremment sur de la vase ou des cailloux. Je ne prétendais pas y plonger. J'avais assez à faire pour garder la tête hors de l'eau. Quant à ce que j'ai laissé derrière moi, je ne puis y concevoir de changement. L'énorme et magnanime Doramine et sa maternelle petite sorcière d'épouse, tous deux contemplant le pays et nourrissant en secret leurs rêves d'ambition paternelle. Tunku Alang, ratatiné et tout perplexe. Denwaris, intelligente et brave, avec sa foi en Jim, avec son regard ferme et sa cordialité ironique. La jeune femme absorbée dans son adoration terrifiée et méfiante. Tamitam, hargneux et fidèle. Cornelius, appuyant son front à la balustrade, sous le clair de lune. Je les vois nettement. Ils sont tous là, comme évoqués par un coup de baguette magique. Mais le personnage autour duquel ils se groupent tous, celui-là vit, et je ne le vois pas bien. Nulle baguette magique ne peut l'immobiliser sous mes yeux. C'est l'un des nôtres. Jim, je vous l'ai dit, faisait avec moi la première étape du retour vers un monde auquel il avait renoncé, et parfois il nous semblait entrer au cœur d'une nature sauvage et inviolée. La rivière vide étincelait sous le soleil vertical, entre les hautes murailles de la végétation. La chaleur assoupie tombait sur l'eau, et le canot, vigoureusement enlevé, filait à travers un air épais et chaud qui paraissait figé sous la voûte des grands arbres. L'ombre d'une séparation prochaine avait déjà mis entre nous une distance immense, et quand nous parlions, c'était avec effort, comme si nous eussions dû forcer nos voix trop basses pour franchir un espace énorme et sans cesse accru. L'embarcation volait sur l'eau. Nous étouffions côte à côte dans l'air stagnant et surchauffé. L'odeur de vase et de marais, l'odeur originelle de la terre féconde, semblait nous piquer les narines, lorsque tout à coup, à un dernier tournant, ce fut comme si, très loin, une grande main avait levé un lourd rideau et brusquement ouvert un portique gigantesque. La lumière même semblait s'allumer. Le ciel s'élargissait sur nos têtes. Un murmure lointain frappa nos oreilles. Une fraîcheur nous enveloppa, remplit nos poumons, vivifia nos pensées, notre sang, nos regrets, et droit devant nous, les forêts disparurent devant la crête bleue sombre de la mer. Je respirais largement. Je jouissais de l'immensité d'un horizon ouvert, de l'atmosphère nouvelle qui paraissait palpitante des efforts de la vie, de l'énergie d'un monde impeccable. Ce ciel et cette mer s'ouvraient pour moi. La jeune femme avait raison. Il y avait là un signal, un appel, quelque chose à quoi je répondais par toutes les fibres de mon être. Je laissais mes yeux errer sur l'espace, comme un homme délivré de ses liens qui étire ses membres endoloris, court, bondit, obéit à l'exaltation grisante de la liberté reconquise. « C'est merveilleux !» m'écriai-je. Puis je regardais le malheureux assis à côté de moi. La tête penchée sur la poitrine, il répondit « Oui, sans lever les yeux, comme s'il eût redouté de voir, écrit en grosses lettres sur le ciel du large, les reproches de sa conscience romanesque. Je revois les plus minces détails de cet après-midi. Nous accostâmes sur un petit coin de grève blanche, encadré par une falaise basse, au sommet brisé et aux flancs drapés jusqu'aux pieds de plantes grimpantes. Au-dessous de nous, la plaine marine, d'un bleu intense et serein, s'élevait imperceptiblement jusqu'à l'horizon, tendue comme un fil à la hauteur de nos yeux. De grandes vagues de lumière passaient légèrement sur la surface sombre, rapides comme des plumes chassées par le vent. Trapue et brisée, une chaîne d'îlots, déployée en face du vaste estuaire, réfléchissait fidèlement les contours de ses rives sur une nappe d'eau pâle et vitreuse. Solitaire et tout noir, haut dans le ciel décoloré, un oiseau planait, plongeant et s'élevant tour à tour au-dessus du même point, avec un imperceptible battement d'ailes. Un groupe misérable et noirâtre de pauvres bicoques de paillis était juché au-dessus de sa propre image renversée, sur une multitude de pilotis tordus et couleur d'ébène. Un minuscule canot noir en partie, avec deux hommes minuscules et tout noirs aussi, qui s'évertuaient de leur mieux à frapper l'eau pâle. Le canot paraissait glisser péniblement sur un miroir. Ce groupe de pauvres bicoques constituait le village de pêcheurs qui se targuait de la protection spéciale du seigneur blanc, et les deux hommes du canot étaient le vieux chef et son gendre. Ils accostèrent et vinrent à nous sur le sable clair, maigres et bruns, comme s'ils eussent été fumés, avec des plaques cendrées sur la peau de leur poitrine et de leurs épaules nues. Ils avaient la tête serrée dans des foulards sales mais soigneusement roulés, et sans tarder, le vieillard se mit à exposer ses doléances avec volubilité, en étendant un bras maigre et en fixant sur Jim le regard confiant de ses vieux yeux chassieux. Les gens du Raja ne voulaient pas leur laisser la paix. Il y avait eu des histoires à propos d'eux de tortues que les pêcheurs avaient été dénichées sur les îles là-bas, et s'appuyant à bout de bras sur sa pagaie, il tendait sa main brune et osseuse sur la mer. Jim l'écouta quelque temps sans lever les yeux, puis finit par lui dire doucement d'attendre un instant. Il l'écouterait tout à l'heure. Les deux hommes se retirèrent avec soumission à quelque distance et s'accroupirent sur leurs talons, les pagaies posées devant eux sur le sable. Leurs yeux aux reflets d'argent nous suivaient avec patience, et l'immensité déployée de la mer, l'immobilité de la côte, étendue au nord et au sud, hors des limites de la vision, faisait une présence colossale qui regardait les quatre nains que nous étions, perdus sur ce banc de sable étincelant. Le malheur, fit tristement Jim, c'est que, depuis des siècles, les pauvres pêcheurs de ce village ont été considérés comme des esclaves personnels du Raja, et le vieux drôle ne veut pas se mettre dans la tête que... Il s'arrêta. « Que vous avez changé tout cela, » hasardai-je. « Oui, j'ai changé tout cela, » murmura-t-il d'une voix sombre. « Vous avez trouvé une belle chance, » fis-je. « Vous croyez, » répondit-il. « Mon Dieu, oui, vous avez raison. Oui, j'ai retrouvé ma confiance en moi-même avec un nom glorieux. Et pourtant, je voudrais, quelquefois... Non, je me tiendrai à ce que j'ai là. On ne saurait trouver mieux. » Il allongea le bras vers la mer. Pas là-bas, en tout cas. Et frappant le sable du pied, « Voici ma frontière, parce que je ne puis me contenter de moins. » Nous continuions à arpenter la grève. « Oui, j'ai changé tout cela, » reprit-il avec un regard de côté sur les deux pêcheurs patiemment accroupis. « Mais représentez-vous un peu ce qui arriverait si je m'en allais. Par Jupiter, ne le voyez-vous pas? Ce serait l'enfer déchaîné. Non. Demain, j'irai courir le risque du café de ce vieil imbécile de Tunku Alang, et je ferai un tas d'histoires à propos de ces œufs pourris de tortue. Non, je ne puis dire. Cela suffit. Jamais. Il faut que je poursuive ma route jusqu'au bout, sans faiblir, pour sentir que rien ne peut m'atteindre. Il faut que je m'appuie sur leur confiance, pour connaître une pleine sécurité, et pour... Il parut chercher un mot, vouloir le lire sur la mer, pour rester en contact avec... Sa voix tout à coup tombée n'était plus qu'un murmure. Avec ceux que je ne verrai peut-être plus jamais. Avec vous, par exemple. Je fus profondément ému de ces paroles. Pour l'amour de Dieu, m'écriai-je, ne faites pas trop grand cas de moi, mon ami. Songez un peu à vous-même. J'éprouvai gratitude et affection pour ce traînard dont les yeux m'avaient distingué dans les rangs d'une insignifiante multitude. Il n'y avait pas de quoi être bien fier, pourtant. Je détournai mon visage brûlant. Sous le soleil bas, dont s'éteignait le sombre éclat de pourpre, comme un tison sorti du feu, la mer étalée offrait son immense paix au globe flamboyant. Deux fois, Jim fut sur le point de parler, mais il se contint. Puis enfin, comme s'il eût trouvé une formule, « Je serai fidèle, » fit-il doucement. « Oui, je serai fidèle, » répéta-t-il, sans me regarder, mais en laissant pour la première fois errer ses yeux sur l'océan, dont le bleu avait passé au violet sombre, sous les feux du couchant. Ah, il était bien romanesque, romanesque. Je me rappelais certaines des paroles de Stein. Plonger dans l'élément destructeur. Suivre son rêve et suivre son rêve à jamais. Usque ad finem. Il était romanesque, mais non moins sincère. Qui saurait dire quelle forme, quelle vision, quel pardon, quel visage il cherchait dans l'ardeur du couchant? Une petite barque détachée de la goélette pour me chercher venait tout doucement vers la grève, au rythme régulier de ses deux avirons. « Et puis il y a bijoux, » fit-il, et le grand silence de la terre, du ciel et de la mer dominait si bien toutes mes pensées que le son de sa voix me fit tressaillir. « Il y a bijoux. » « Oui, » murmurai-je. « Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'elle est pour moi, » reprit-il. « Vous avez vu. Un jour, elle finira par comprendre. » « Je le souhaite, » interrompis-je. « Elle aussi, elle a foi en moi, » murmura-t-il d'un ton rêveur, puis avec un accent nouveau. « À quand notre prochaine rencontre, je me le demande. »« À jamais, à moins que vous ne reveniez, » répondis-je en fuyant son regard. Il ne parut pas surpris, mais resta un instant immobile. « Adieu, alors, » fit-il après un silence. « Peut-être cela vaut-il mieux. » Nous nous serrâmes la main, et je me dirigeai vers le canot qui m'attendait, l'avant sur le sable. Grand voile déployé et foc au vent, la goélette dansait sur la mer de pourpre. Ses voiles se teintaient de rose. « Comptez-vous bientôt retourner là-bas ? » me demanda Jim au moment où je passais le pied par-dessus le bordage. « Dans un an, à peu près, si je vis, » répondis-je. Le brillon racla la grève. Le canot flotta. Les rames humides brillèrent et tombèrent à l'eau, une fois, deux fois. Jim éleva la voix. « Dites-leur, » commença-t-il. Je fis signe aux rameurs de suspendre leur nage et attendis avec étonnement. « Dire à qui ?» Le soleil à demi submergé l'éclairait en plein, et je voyais son rouge éclat dans les yeux qui me lançaient un regard muet. « Non, rien, » conclut-il. Et il fit d'un geste léger de la main, signe aux matelots de repartir. Je ne regardai plus le rivage avant d'avoir grimpé sur la goélette. Le soleil était couché. Le crépuscule tombait sur l'Orient et la côte devenue toute noire étendait à l'infini son mur sombre qui paraissait être le rempart même de la nuit. Au couchant, l'horizon n'était qu'un flamboiement d'or et de pourpre, doux, sombre et immobile. Un gros nuage flottant faisait tomber sur la mer une ombre d'ardoise. Sur la grève, Jim attendait de voir la goélette abattre et prendre de l'air. Les deux pêcheurs, demi-nus, s'étaient levés à mon départ. Ils déversaient sans doute dans les oreilles du Seigneur Blanc les pauvres doléances de leur misérable existence d'opprimé, et sans doute aussi écoutaient-ils cette plainte et la faisaient-ils sienne. Car n'était-ce pas là une part de sa chance, de cette chance qu'il avait trouvée du premier coup, et dont il affirmait avoir su se montrer digne? Eux aussi, ils avaient de la chance, et j'étais bien certain que leur constance les en rendrait dignes. Leur corps brun avait disparu sur le fond sombre, bien avant que j'eusse perdu de vue leur protecteur. Blanc des pieds à la tête, il restait indéfiniment visible, avec le rempart de la nuit dans son dos, la mer à ses pieds, et à son côté, la chance, toujours voilée. Que dites-vous? Si elle était toujours voilée, je ne sais pas. Pour moi, cette silhouette blanche, dressée sur l'immobilité de la côte et de la mer, était le centre d'une formidable énigme. Les dernières lueurs du jour s'éteignaient rapidement dans le ciel au-dessus de sa tête. À ses pieds, la bande de sable était déjà noyée d'ombre. Il n'était pas lui-même plus gros qu'un enfant. Puis ce ne fut plus qu'un point, blanc minuscule, qui semblait concentrer sur lui toute la lumière attardée dans un monde obscur. Et tout à coup, je ne le vis plus. Chapitre 36. C'est sur ces mots que Marlowe acheva son récit, et son auditoire se dispersa sous son regard pensif et absorbé. Seul, ou deux à deux, sans perdre de temps, sans une observation, les convives quittaient la véranda, comme si la dernière vision de cette histoire incomplète, ce qu'elle avait même d'inachevé, et le ton du conteur, eussent rendu toute discussion vaine et tout commentaire impossible. Chacun des auditeurs semblait emporter comme un secret ses propres impressions. Mais entre tous, il y en avait un seul, qui devait un jour connaître le dernier mot de l'histoire. Il l'apprit chez lui, plus de 2 ans après, et cette conclusion lui parvint sous forme d'un paquet épais, à l'adresse libellée par Marlowe, d'une écriture droite et anguleuse. L'homme privilégié ouvrit le paquet, jeta les yeux sur son contenu, puis le posa sur la table pour se diriger vers la fenêtre. Son appartement était perché au dernier étage d'une haute bâtisse, et à travers les carreaux clairs, son regard portait très loin, comme à travers une lanterne de phare. Les pentes des toits luisaient. Les crêtes noires brisées se succédaient à l'infini, comme des vagues sombres sans écume. Et sous ses pieds montait, des profondeurs de la ville, une confuse et inlassable rumeur. Multiples et disséminés au hasard, des clochers d'église se dressaient comme des balises sur des bas-fonds inextricables et dépourvus de chenal. La pluie oblique se fondait dans le crépuscule tombant d'un soir d'hiver, et sur une tour, les coups d'une grosse cloche qui sonnait l'heure roulaient en bouffées formidables et austères, avec une vibration aiguë tout au fond. L'homme tira les lourds rideaux. La lumière abattue de sa lampe dormait comme une mare abritée. Ses pas tombaient sans bruit sur le tapis. Ses jours errants étaient passés. Plus d'horizons illimités comme l'espérance, plus de pénombres de forêts solennelles comme des temples, dans l'ardente poursuite du pays éternellement vierge, par-dessus les collines, derrière les torrents, au-delà des mers. Jamais plus. Jamais plus. Mais sous la lampe, le paquet ouvert évoquait les sons, les visions, le parfum même du passé. Une multitude de visages effacés, une rumeur de voix basses, mourant au bord des rivières lointaines, sous un soleil passionné et sans consolation. Il soupira et s'assit pour lire. Il trouva dans l'enveloppe 3 plis distincts. De nombreuses pages épinglées et copieusement noircies, une feuille volante de papier grisâtre, avec quelques lignes tracées d'une écriture qu'il n'avait jamais vue, et une lettre explicative de Marlowe. De ces dernières pages s'échappa une seconde lettre, jaunie par le temps et éraillée aux plis. Il la ramassa, la mit de côté, et revenant au message de Marlowe, en parcourut rapidement les premières lignes, pour s'arrêter bientôt et lire ensuite attentivement, comme un homme qui aborde à pas lents et avec des yeux grands ouverts, le pays inconnu qui va se dévoiler à ses regards. « Je ne pense pas que vous ayez oublié, disait la lettre. Seul, vous avez fait montre d'intérêt pour celui qui survivait au récit de son histoire. Vous n'admettiez pas, pourtant, je m'en souviens bien, qu'il eût vraiment subjugué son destin. Vous prophétisiez pour lui le désastre de la lassitude et du dégoût, devant l'honneur conquis et la tâche imposée, devant l'amour né de la pitié et de la jeunesse. Vous disiez trop bien connaître ce genre d'histoire, avec ses satisfactions illusoires, et ses inéluctables déceptions. Vous prétendiez aussi, je me le rappelle, que consacrer sa vie à ces gens-là désignaient toutes les races humaines à peau jaune, brune ou noire, c'était vendre son âme à une brute. Vous souteniez que ce genre d'histoire, pour être tolérable et durable, devait se baser sur une foi solide dans la vérité d'idées propres à notre race, et sur lesquelles repose l'ordre et le progrès moral. Il faut une conviction pareille pour nous soutenir, disiez-vous. Nous avons besoin de croire à la nécessité et à la justice de ces idées pour faire le sacrifice valable et conscient de nos existences. Sans elles, le sacrifice n'est qu'oubli, et la voie qui nous y mène vaut une voie de perdition. En d'autres termes, vous souteniez que nous devons combattre dans le rang et que nos vies ne comptent pas. Possible. Vous devez le savoir, soit dit sans malice, vous qui avez su entrer seul en mains endroits et en sortir adroitement, sans vous brûler les ailes. Mais la question, c'est que dans toute l'humanité, Jim n'avait affaire qu'à lui-même. Et l'on peut se demander si, en définitive, sa foi confessée n'était pas plus haute que les lois d'ordre et de progrès. Je n'affirme rien. Peut-être pourrez-vous en juger, vous, après avoir lu. Il y a beaucoup de vérité, somme toute, dans cette banale expression « être sous un nuage ». Il est d'autant plus impossible de le clairement distinguer que c'est à travers d'autres yeux que nous avons de lui une dernière vision. Je n'hésite pas à vous communiquer tout ce que je sais de cet épisode suprême qui, selon son expression, lui est tombé dessus. On se demande si ce n'est pas cette chance ultime, cette dernière et décisive épreuve que je l'avais toujours soupçonné d'attendre, pour pouvoir lancer ensuite un message au monde impeccable. Vous vous souvenez qu'au moment où je le quittais pour la dernière fois, il m'avait demandé si je comptais bientôt retourner là-bas, et m'avait tout à coup crié « Dites-leur !» J'avais attendu avec curiosité, je l'avoue, avec espoir aussi, mais il avait ajouté « Non, rien !» Ce fut tout ce jour-là. Et il n'y aura rien de plus. Il n'y aura pas de message, pas d'autre au moins que celui que chacun de nous peut trouver dans le langage des faits, si souvent plus énigmatique que les plus subtils arrangements de mots. Il a fait pourtant une dernière tentative pour s'expliquer, tentative infructueuse encore, comme vous vous en rendrez compte en jetant un coup d'œil sur la feuille grise ci-jointe. Il a essayé d'écrire. Voyez cette écriture banale. Il a daté sa lettre, du fort Patouzan, ce qui me fait conclure qu'il avait mis à exécution son projet de transformer son domaine en un lieu de défense. Son plan était excellent, un fossé profond, un mur de terre couronné d'une palissade et aux angles des canons montés sur plateforme pour balayer les quatre faces du quadrilatère. Doramine avait consenti à lui fournir les canons, et de la sorte, ses fidèles savaient pouvoir compter sur un refuge où se rallieraient tous ses partisans en cas de danger subi. Tout cela prouvait ses vues judicieuses, sa foi dans l'avenir. Ceux qu'il appelait mes gens à moi, les captifs libérés du shérif, devaient, avec leurs huttes et de petits lopins de terre disposés autour du fort central, se grouper à Patouzan en un quartier distinct. Dans son enceinte, il représenterait à lui tout seul une armée invincible. Du fort Patouzan. Pas de date, vous le voyez. Qu'importe un nom et un quantième, pour un jour entre les jours. Il est impossible de dire à qui il pensait en prenant la plume. À Stein, à moi, au monde en général. Ou ne faut-il voir là que le cri d'effroi sans adresse d'un solitaire en face de sa destinée? Une chose terrible vient d'arriver, écrit-il, avant de jeter la plume pour la première fois. Regardez sous ces mots la tache d'encre qui s'effile en pointe de flèche. Après un moment, il a fait une nouvelle tentative et griffonné lourdement, avec une main de plomb, la seconde ligne. Il faut maintenant sans tarder que je... La plume a craché et il a renoncé. Il n'y a rien de plus. Il a vu un gouffre formidable que le regard ni la voix ne pouvaient franchir. Voilà ce que je crois comprendre. Il a été écrasé par l'inexplicable, par sa propre personnalité, par la générosité même de cette destinée, qu'il avait tant fait pour maîtriser. Je vous envoie aussi une vieille lettre, une très vieille lettre que l'on a trouvée soigneusement pliée dans son pupitre. C'est une lettre de son père, et la date vous montrera qu'il avait dû la recevoir quelques jours avant d'embarquer sur le Patna. Ce doit être la dernière lettre qu'il ait reçue des siens. Il l'avait précieusement conservée toutes ces années. Le bon vieux pasteur aimait fort son fils marin. J'ai lu quelques phrases çà et là. Vous n'y trouverez que tendresse. Il dit à son cher Jacques que sa dernière longue lettre était bien bonne et bien intéressante. Il ne voudrait pourtant pas le voir juger trop hâtivement et trop sévèrement les hommes. Quatre pages de ce genre, quatre pages de morale familière et de nouvelles des siens. Tom a pris les ordres. Le mari de Carrie a subi des pertes d'argent, et ainsi de suite. Le vieillard témoigne tout uniment de sa foi dans la Providence, dans l'ordre établi de l'univers, comme de son attention à ses petits dangers et à ses pauvres grâces. On le voit d'ici grisonnant et serein, dans l'inviolable asile d'un cabinet de travail confortable et fané, où, sous les murs tapissés de livres, il a pendant 40 ans de sa vie fait consciencieusement le tour de ses humbles pensées, touchant la foi et la vertu, la conduite de la vie et la seule façon correcte de mourir, où il a composé tant de sermons, d'où il écrit à son garçon, si loin, de l'autre côté de la terre. Mais qu'importe la distance. La vertu est une, d'un bout du monde à l'autre, et il n'y a qu'une foi, qu'une façon convenable de mener sa vie, qu'une manière de mourir. Il espère que son cher Jacques n'oubliera jamais que celui qui cède une fois à la tentation s'expose du même coup à la dégradation totale et à la perte éternelle. Prends donc la ferme résolution de ne jamais commettre, pour quelque motif que ce soit, une action que tu crois injuste. Il donne encore dans la lettre des nouvelles d'un chien favori. Le poney que vous montiez tous dans votre enfance a perdu la vue, de vieillesse, et a dû être abattu. Le vieillard invoque la bénédiction de la Providence. La maman et toutes les filles présentes à la maison envoient leur tendresse. Non, il n'y a pas grand-chose dans cette lettre jaunâtre et éraillée, échappée après tant d'années à l'étreinte caressante de sa main. Il n'y a jamais répondu. Mais qui saurait dire, pourtant, quel colloque muet il a tenu avec toutes les ombres placides et sans couleur d'hommes et de femmes qui peuplaient ce coin du monde paisible, aussi bien à l'abri des luttes et des périls que peut l'être une tombe, et respirant sagement une atmosphère de calme rectitude. On reste stupéfait qu'il ait pu faire partie de ces gens-là, lui sur qui tant d'aventures sont tombées. Rien ne leur arrivait jamais. Ils ne risquaient pas d'être pris à l'improviste ou d'avoir à se colter avec la destinée. Les voilà tous évoqués par le doux bavardage d'un père, tous ses frères et sœurs, hauts de ses os et chers de sa chair, avec leurs yeux clairs et inconscients de sa présence à lui, que j'aperçois enfin revenu, non plus sous forme d'un minuscule point blanc, perdu au cœur d'un immense mystère, mais dressé de toute sa hauteur au milieu de leurs ombres impassibles, avec une mine sévère et romanesque, mais toujours muet, sombre, sous un nuage. Vous trouverez le récit des derniers événements dans les pages ci incluses. Vous avouerez que cette fin est plus romanesque que les plus échevelés de ses rêves d'enfant, et pourtant il me semble y voir une sorte de logique profonde et terrifiante, comme si c'était notre seule imagination qui pût déchaîner contre nous la puissance d'une effroyable destinée. L'imprudence de nos pensées retombe sur notre tête. Qui joue avec l'épée périra par l'épée. Cette stupéfiante aventure, dont le trait le plus extraordinaire est sa vérité même, survient comme une conséquence inéluctable. Il devait arriver quelque chose de ce genre. Voilà ce que l'on pense, tout en s'émerveillant que pareil fait ait pu survenir dans l'avant-dernière de nos années de grâce. Mais ils se sont bien produits, et il n'y a pas à discuter leur logique. Je vous expose les faits comme si j'en avais été le témoin. Mes données sont un peu décousues, mais je les ai raccordées et elles suffisent à rendre le tableau intelligible. Je me demande comment Jim lui-même nous eût raconté l'histoire. Il m'avait déjà témoigné tant de confiance qu'il me semble parfois le voir tout prêt à entrer chez moi pour me le dire à sa façon. J'entends son accent ému sous l'air détaché. Je vois sa mine décidée, un peu embarrassée aussi, un peu douloureuse, un peu lassée, et de temps en temps, un mot, une phrase, me donne sur son être intérieur un de ces aperçus trop brefs pour pouvoir servir à m'orienter. J'ai peine à croire qu'ils ne doivent jamais venir. Jamais je n'entendrai plus sa voix. Jamais je ne reverrai son visage lisse, rose et hâlé, avec la ligne blanche sur le front et les yeux d'enfant, assombris par l'émotion, devenus d'un bleu profond, insondable. Chapitre 37. L'affaire trouve son origine dans le remarquable exploit d'un nommé Brown, qui avait volé avec le plus entier succès une goélette espagnole dans une petite baie près de Zamboanga. Mes renseignements étaient restés incomplets jusqu'au jour où je rencontrais cet individu, mais un singulier hasard me fit tomber sur lui à l'heure précise où il allait rendre au diable son âme arrogante. Il consentit heureusement à parler et put le faire entre des crises de suffocation. Son corps torturé frémissait de joie maligne à la seule pensée de Jim. Il exultait à l'idée d'avoir tout de même fini par démolir ce sacré pantin tout raide. Le récit de ses exploits lui faisait élargir des prunelles ardentes, et je dus, pour tout savoir, supporter le regard profond de ses yeux féroces à la rude patte d'oie. Je subis l'épreuve en songeant à la distance imperceptible qui sépare certaines formes de méchanceté de la folie. Fille d'un égoïsme forcené, exaspérée par la résistance, elle déchire l'âme et prête au corps une force factice. L'histoire révèle aussi des profondeurs insoupçonnées d'astuces chez le misérable Cornelius, dont la haine abjecte et intense, agissant comme une inspiration subtile, lui montra sans erreur le chemin de la vengeance. J'ai bien vu du premier coup l'espèce d'idiot que c'était, haletait mon Brown moribond. Cela un homme? Tonnerre! C'était une poupée vide, comme s'il n'eût pas pu dire tout de suite « à bas les pattes, défense de toucher à mes rapines ». Le maudit, voilà qui eût été agir en homme, au diable son âme supérieure. Il me tenait, mais il n'y avait pas assez de démons dans son cœur pour en finir avec moi. Ah bah, un être pareil me laissait filer comme si je n'avais pas valu un coup de pied. Brown cherchait désespérément son souffle. Bandit, me laissait filer. Alors c'est moi qui ai fini par avoir sa peau. Il suffoqua de nouveau. Je crois bien que je vais crever, mais je mourrai heureux maintenant. Vous, l'homme dont je ne sais pas le nom, je vous donnerai volontiers un billet de 5 livres, si j'en possédais un, pour les nouvelles que vous m'apportez. Ou je ne m'appelle pas Brown. Il eut un ricanement atroce. Gentleman Brown. Il coupait ses paroles d'inspiration profonde et fixait sur moi le regard dévorant de ses yeux jaunes, enfoncés dans un long visage brun et ravagé. Il faisait des gestes brefs du bras gauche. La broussaille d'une barbe poivre et sel tombait presque à sa taille. Une couverture crasseuse et déchirée couvrait ses jambes. Je venais de le découvrir à Bangkok, par l'entremise de ce brouillon de Schomberg, l'hôtelier, qui m'avait, en confidence, indiqué le côté où poussaient mes recherches. Il paraît qu'une espèce de vagabond, ivrogne fieffé, un blanc qui vivait dans le quartier indigène avec une siamoise, s'était tenu pour très honoré d'abriter les derniers jours du fameux gentleman Brown. Pendant que nous causions dans le bouge sordide, où le moribond enlevait de hautes luttes chacune des ultimes minutes de sa vie, la siamoise, assise dans un coin d'ombre, cachait à demi ses grosses jambes nues et sa large face stupide, en mâchant du bétel d'un air abruti. Elle se levait de temps à autre pour chasser un poulet de la porte, et toute la bicoque tremblait sous ses pas. Un affreux bambin jaune, avec la nudité et le ventre en tonneau d'un petit dieu païen, se tenait au pied du lit, un doigt dans la bouche, perdu dans une contemplation profonde du mourant. L'homme parlait avec fièvre, mais parfois, au milieu d'un mot, une invisible main semblait le prendre à la gorge, et il me jetait un muet regard d'angoisse et de doute. Il paraissait craindre que je finisse par me lasser, et que je me retirasse, sans lui laisser le temps d'achever son histoire et de crier son exultation. Je crois qu'il mourut dans la nuit, mais à ce moment-là, je n'avais plus rien à apprendre. En voilà assez sur Brown pour l'instant. 8 mois auparavant, en arrivant à Samarang, j'étais, selon ma coutume, allé voir Stein. Je fus salué avec timidité par un malais posté sur la véranda du côté du jardin, et je me souvins d'avoir vu cet homme à Patouzan, dans la maison de Jim, parmi d'autres bougies, qui venaient le soir rabâcher d'interminables souvenirs de guerre et discuter les affaires publiques. Jim me l'avait désigné comme un respectable et modeste négociant, possesseur d'un petit voilier de haute mer monté par un équipage indigène et qui s'était fort distingué dans la prise de la redoute. Je ne fus pas trop surpris de le voir là, sachant qu'aucun des négociants de Patouzan qui s'aventuraient jusqu'à Samarang ne manquait de se rendre à la maison de Stein. Je lui rendis son salut et passai. À la porte du cabinet de Stein, je tombai sur un second malais en qui je reconnus Tambi Tam. Je lui demandai tout de suite ce qu'il faisait là. L'idée me traversa la tête que Jim avait pu venir en visite, et j'avoue que cette pensée me causait plaisir et émotion. Mais Tambi Tam paraissait ne savoir que répondre. « Tuan Jim est là ?» demandai-je avec impatience. « Non, » grommela-t-il, en laissant un instant tomber sa tête, puis avec une violence soudaine, Il n'a pas voulu se battre. Il n'a pas voulu se battre, répéta-t-il à deux reprises. Comme il semblait incapable de dire autre chose, je le poussai de côté et j'entrai. Grand et voûté, Stein se tenait au milieu de la pièce, entre les rangées de cases à papillons. « Ah, c'est vous, mon ami !» fit-il tristement en me regardant à travers ses lunettes. Un paletot-sac d'alpaga brunâtre tombait déboutonné jusqu'à ses genoux. Il avait un panama sur la tête et des plis profonds sillonnaient ses joues pâles. « Qu'y a-t-il donc ? » demandai-je nerveusement. « Voilà Tamitam. Venez voir la pauvre fille. « Venez voir la pauvre fille, » fit-il, avec un semblant d'énergie. Je voulais le retenir, mais il refusait, avec une douce obstination, de prêter l'oreille à mes questions pressantes. « elle est ici, » répétait-il avec une agitation manifeste. « Ils sont arrivés depuis 2 jours. Un vieillard comme moi, un inconnu, Zenzi, ne peut pas faire grand-chose. Par ici, les jeunes cœurs sont implacables. » Je le sentais en proie à une affreuse angoisse. La force de vie qu'il y a en eux, la cruelle force de vie. Il marmonnait en me guidant à travers la maison. Je le suivais, perdu dans des conjectures sinistres et courroucées. À la porte du salon, il me barra la route. Il l'aimait beaucoup, me demanda-t-il d'un ton interrogateur, et je ne pus répondre que d'un signe de tête, n'osant risquer une parole, tant mon désappointement était amer. C'est affreux, soupira-t-il. Elle ne me comprend pas. Je ne suis pour elle qu'un vieillard inconnu. Vous, peut-être, qu'elle connaît. Parlez-lui. Nous ne pouvons laisser les choses dans cet état. Dites-lui de pardonner. C'était bien terrible. Sans aucun doute, m'écriai-je, exaspéré de rester dans l'ignorance. Mais vous, lui avez-vous pardonné? Il me lança un étrange regard. Vous allez savoir, fit-il. Et ouvrant la porte, il me poussa littéralement dans la pièce. Vous connaissez la grande maison de Stein, avec ses 2 immenses salons de réception, inhabités et inhabitables, ses pièces nettes, pleines de solitude et de choses brillantes, qui font l'effet de n'avoir jamais été touchées par un regard humain. Il y fait frais par les plus grandes chaleurs, et l'on a, en franchissant le seuil, l'impression de pénétrer dans un souterrain soigneusement astiqué. Je traversai l'un de ces salons, et dans l'autre je vis la jeune femme, assise au bout d'une grande table d'acajou, sur laquelle elle posait la tête, le visage caché dans les bras. Comme une nappe d'eau glacée, le plancher ciré reflétait vaguement sa silhouette. Les stores de joncs étaient baissés, et dans l'étrange pénombre verdâtre filtrée par les frondaisons d'alentour, passaient de lourdes bouffées de vent qui soulevaient les longues draperies des fenêtres et des portes. Sa forme frêle semblait taillée dans la neige, et au-dessus de sa tête, les perles de cristal d'un grand candélabre cliquetaient comme d'étincelantes stalactites de glace. Elle leva les yeux à mon approche. Je me sentais glacé, comme si ces vastes appartements eussent été la froide demeure du désespoir. Elle me reconnut sans hésitation. Et dès que je me fus arrêté, les yeux baissés sur son visage, « Il m'a quitté, » fit-elle tranquillement. « Vous nous quittez toujours. » poursuivre votre chemin. Son visage était figé, et toute la chaleur vitale semblait s'être réfugiée dans quelque coin inaccessible de sa poitrine. « Il m'aurait été facile de mourir avec lui, » poursuivit-elle, en faisant un geste de lassitude, comme si elle eût renoncé à comprendre l'inexplicable. Il n'a pas voulu. On aurait cru qu'il était aveugle. Pourtant, c'est moi qui lui parlais. Moi qui me tenais devant ses yeux. C'est moi qu'il regardait tout le temps. Ah, vous êtes dur, fourbe, perfide, impitoyable. Qu'est-ce qui vous rend si méchant? Ou bien est-ce que vous seriez fou? Je pris sa main qui ne répondit pas à mon étreinte et qui retomba lorsque je la lâchai. Cette indifférence, plus terrible que les pleurs, les cris et les reproches, semblait défier le temps et les consolations. On sentait que rien de ce que l'on pouvait dire n'atteindrait le centre de cette douleur muette et paralysante. « Vous allez tout savoir, » m'avait dit Stein, et j'appris tout en effet. Je connus toute l'histoire, écoutant avec stupeur et angoisse le ton d'inflexible accablement de la conteuse. Elle ne pouvait pas comprendre la portée réelle des faits qu'elle racontait, et son ressentiment me remplissait de pitié pour elle, comme pour lui. Je restai rivé à ma place lorsqu'elle eut achevé. Appuyée sur ses coudes, elle regardait droit devant elle avec des yeux durs, et le vent qui passait en bouffée continuait à faire sonner les cristaux dans le demi-jour verdâtre. Elle murmurait tout bas, et pourtant il me regardait. Il voyait mon visage. Il entendait ma voix et ma peine. Quand je m'asseyais à ses pieds, la joue contre ses genoux et sa main sur ma tête, le démon de la cruauté et de la folie était déjà en lui et attendait son heure. L'heure est venue, et avant le coucher du soleil, il ne me voyait plus. Il était devenu aveugle, sourd et impitoyable, comme vous l'êtes tous. Il n'aura pas de larmes de moi, jamais. Jamais, pas une larme. Je ne pleurerai pas. Il m'a quitté comme si j'avais été pire que la mort. Il s'est enfui comme un être chassé par une chose maudite qu'il aurait vue ou entendue dans son sommeil. Ses yeux fixes semblaient se tendre vers la vision d'un homme arraché à ses bras par la force d'un rêve. Elle ne répondit pas à mon salut silencieux. Je m'échappai avec soulagement. Je la revis une fois encore l'après-midi même. En la quittant, j'étais allé à la recherche de Stein, que je ne pus trouver dans la maison. En proie à des pensées désolantes, je me mis à errer dans les jardins, ces fameux jardins de Stein, où poussent toutes les plantes et tous les arbres des basses régions tropicales. Je suivis le cours canalisé d'un ruisseau et restai longuement assis sur un banc ombragé, près d'un étang artificiel, où des oiseaux aquatiques aux ailes rognées pataugeaient et plongeaient à grand bruit. Derrière mon dos, les brandes des chênes d'Australie me rappelaient par leurs mouvements légers, mais incessants, le sifflement des sapins de chez nous. Ce son triste et continu était un accompagnement bien fait pour ma méditation. La jeune femme me disait qu'il avait été arraché par un rêve, et il n'y avait rien à répondre. Une telle transgression paraissait bien impardonnable. Et pourtant, l'humanité même, dans sa course aveugle, n'est-elle pas poussée aussi par ses rêves de grandeur et de puissance sur la sombre route des excès de cruauté et des excès de dévotion? Et qu'est-ce donc après tout que la poursuite de la vérité? En me levant pour regagner la maison, j'aperçus à travers une brèche de verdure le manteau brun de Stein et je le rencontrai bientôt à un détour du chemin qui se promenait avec la jeune femme. Elle posait sa petite main sur le bras du vieillard qui, sous le large bord plat du Panama, penchait vers elle avec une déférence apitoyée et chevaleresque, sa tête grise et paternelle. Je m'effaçai, mais ils s'arrêtèrent en face de moi. Stein contemplait le sol à ses pieds. La jeune femme, droite et légère à son bras, lançait derrière son dos le regard d'yeux noirs, clairs, immobiles. « Schrecklich !» soupira le vieillard. « C'est terrible, terrible, que peut-on faire ?» Il semblait m'implorer, mais la jeunesse de sa compagne et la longueur des jours suspendus sur sa tête me touchait le cœur plus que son appel. Et soudain, tout en réalisant mon impuissance, je me mis à plaider pour son soulagement à elle, la cause de mon ami. « Il faut lui pardonner, » conclus-je, et ma voix sans timbre paraissait s'étouffer dans une immensité indifférente et sourde. « Nous avons tous besoin de pardon, » ajoutai-je, après un instant de silence. « Qu'ai-je donc fait ?» demanda-t-elle du bout des lèvres. « Vous vous êtes toujours méfié de lui, » répondis-je. « Il était comme les autres, » prononça-t-elle lentement. « Non, » protestai-je, « pas comme les autres. » Mais elle poursuivit d'un ton morne, sans émotion apparente, « c'était un fourbe. » Et tout à coup, Stein éclata. « Non, 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 ma pauvre enfant !» Il caressait la main passivement posée sur sa manche. « Non, non, pas fourbe, fidèle, fidèle, fidèle !» Il s'efforçait de scruter le visage de Pierre. « Vous ne comprenez pas. Ah ! Pourquoi ne comprenez-vous pas ? Terrible ! » ajouta-t-il en se tournant vers moi. « Mais un jour, il faudra bien qu'elle comprenne. » « Est-ce vous qui lui expliquerez ? » demandai-je en le regardant fixement. Je les vis s'éloigner. La robe de la jeune femme traînait sur le chemin. Ses cheveux dénoués tombaient dans son dos. Droite et légère, elle marchait à côté du vieillard, dont le long manteau flottant pendait en plis perpendiculaires sur les épaules voûtées, et dont les pieds bougeaient avec lenteur. Ils disparurent derrière ce bosquet, vous vous en souvenez peut-être, où poussent côte à côte 16 espèces différentes de bambous, tous reconnaissables pour un œil averti. Pour ma part, je me sentis captivé par la grâce exquise et la beauté de ce bouquet délié, couronné de feuilles pointues et de têtes plumeuses, par la légèreté, la vigueur, le charme net, comme un son de voix, de cette vie paisible et luxuriante. Je me souviens d'être resté longtemps dans la contemplation de ce bosquet, comme on s'attarderait à porter d'un murmure consolateur. Le ciel était d'un gris perle. C'était un de ces jours voilés, si rares sous les tropiques, où vous assaillent des souvenirs d'autres bords et d'autres visages. L'après-midi, je rentrai en ville. J'emmenai avec moi Tam Itam et le Malais, dont les deux fugitifs avaient emprunté le voilier dans l'effarement, l'épouvante et l'horreur du désastre. La secousse paraissait avoir transformé leur nature, pétrifié la passion de la jeune femme et rendu presque loquace le taciturne et revêche Tam Itam. Sa morosité s'était muée en une humilité inquiète, comme s'il eût, en un moment suprême, éprouvé la faillite d'un charme puissant. Le négociant Bugy, homme hésitant et timide, m'exposa très clairement le peu qu'il avait à dire. Ils étaient évidemment écrasés tous deux par une sorte d'étonnement profond et inexprimable, par l'approche d'un insondable mystère. Là se terminait, avec la signature de Marlowe, la lettre proprement dite. Le lecteur privilégié remonta la mèche de sa lampe, et seul au-dessus de la houle des toits de la ville, comme un gardien de phare au-dessus de la mer, il entama la lecture de l'histoire.